Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce sera sans doute l'une des images fortes du jour. Nicolas Sarkozy devant ses juges. L'ancien chef de l'État comparé à partir de 13h30 aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption et trafic d'influence. À ses côtés, l'avocat Thierry Herzog et un ancien haut magistrat. Nous vous expliquerons cette affaire dite des écoutes, l'affaire Bismuth.
Un premier élevage de visons touché par le Covid-19 en France. Un millier de bêtes ont été abattues. Vous entendrez les arguments du ministre de l'Agriculture et ceux d'une association de défense des animaux.
Nous nous pencherons ensuite sur l'encadrement des loyers. Les villes candidates avaient jusqu'à aujourd'hui pour se faire connaître en France, alors qu'à Berlin, 340 000 locataires voient justement leur loyer baisser. Aujourd'hui.
Emmanuel Macron veut aider le président algérien pour une transition réussie dans son pays, mais il est accusé d'ingérence dans ce journal. Nous reviendrons sur l'absence justement du président algérien au sommet de l'État.
Et puis à 7 mois des régionales en France, Frédéric Seix se demandera ce matin comment mener une campagne électorale tout en respectant les gestes barrières. Son billet politique après cette édition. C'est une première sous la Ve République. Un président sera jugé à partir d'aujourd'hui pour corruption. Seul Jacques Chirac, avant lui, avait été jugé et condamné en 2011 pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, mais il n'avait pas pu assister à son procès pour des raisons de santé. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, lui, est attendu à 13h30 au Palais de Justice de Paris. Il est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir, dans le cadre de l'affaire Bettencourt en 2014, des informations secrètes auprès d'un ancien haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, et ce, en échange d'un coup de pouce pour un poste à Monaco. L'ami du président, son avocat Thierry Herzog, y aurait aussi participé, Anne Fauquemberg.
Pour l'accusation, il y aurait eu un pacte de corruption entre ces trois hommes. Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, Gilbert Azibert, tous les trois poursuivis donc pour corruption et trafic d'influence, auquel s'ajoute le recel de délit pour le haut magistrat Azibert et la violation du secret professionnel pour la star du barreau Thierry Herzog. Ce pacte présumé a été révélé au cours de l'instruction de l'affaire dite libyenne sur les conditions de financement de la première campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. En septembre 2013, des écoutes téléphoniques sont autorisées sur les lignes officielles de l'ex-chef d'État, mais aussi sur une ligne ouverte au nom de Paul Bismuth, un téléphone secret pour communiquer avec son avocat. Et c'est là que le mobile du délit serait apparu, selon les magistrats, alors que la Cour de cassation doit se prononcer sur la légalité de la saisie des agendas de Nicolas Sarkozy dans une autre affaire, l'affaire Bettencourt, pour laquelle il a par ailleurs obtenu un non-lieu. Des conversations laissent à penser que l'ex-chef d'État et son avocat auraient corrompu Gilbert Azibert en lui promettant de l'aider pour un poste convoité à Monaco et pour obtenir une information à caractère secret.
Et pour ces soupçons, Anne, les charges sont extrêmement lourdes contre les trois prévenus.
Selon le pénaliste au club des juristes Didier Rebus, cette affaire se situe au sommet de la hiérarchie des délits. Les trois prévenus risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Comment Nicolas Sarkozy sortira-t-il de ce procès? Sera-t-il oui ou non condamné? C'est évidemment l'enjeu central, alors que dans ses précédents avec la justice, l'ex-président a toujours été mis hors de cause. Au cours de l'instruction, cet avocat de profession a contesté toutes les infractions qui lui étaient reprochées. Et ces dernières semaines, le Sphinx, comme l'appelle parfois Thierry Herzog, n'a pas ménagé sa peine dans une offensive médiatique pour fustiger l'instrumentalisation politique de la justice.
Merci Anne Fauquemberg, épreuve de cette offensive médiatique que vous évoquez. Sachez que les deux principaux syndicats de magistrats y ont répondu, c'est la semaine dernière, en dénonçant des attaques de la part de Nicolas Sarkozy et rappelant l'indépendance judiciaire. Ce ne sera pas un crime, comme le demandait la Convention citoyenne, mais un délit, le délit d'écocide. Il prévoit de sanctionner les atteintes graves à l'environnement en fonction de l'intentionnalité de l'auteur. Les peines pourront aller de 3 à 10 ans de prison. La ministre de la Transition écologique et le garde des Sceaux l'ont annoncé hier. Ils l'expliqueront en détail aujourd'hui face aux membres de la Convention des citoyens qui, je le rappelle, souhaitaient un nouveau crime d'écocide et non pas un délit. Ils ont été abattus par précaution très rapidement, sitôt l'ordre donné par le gouvernement. Un millier de visons sont morts en Eure-et-Loire après la détection du SARS-CoV-2 dans cet élevage. Plusieurs pays d'Europe, et notamment le Danemark, avaient déjà été touchés par ce phénomène. Phénomène qui pourrait permettre au virus, le SARS-CoV-2, de muter et de devenir plus résistant face à un éventuel vaccin anti-Covid-19. Reste encore en France trois sites à vérifier, trois élevages de visons. Comme l'explique le ministre ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
D'ores et déjà, l'un des trois élevages qui restent, les tests ont montré qu'il était indemne, qu'il n'y avait pas le virus. Et nous aurons les résultats des tests sur les deux autres élevages très prochainement. Et donc, toutes ces mesures de biosécurité que nous avons mises en place, elles sont là précisément pour assurer le suivi au cas par cas de chacun de ces élevages et de pouvoir être très réactif comme nous le sommes dans l'Eure-et-Loire aujourd'hui. La protection de nos concitoyens, elle nous impose de prendre ces mesures sanitaires.
Le ministre de l'Agriculture qui précise aussi que les éleveurs qui devraient perdre leurs bêtes seront indemnisés. Mais l'association One Voice réclame, elle, la fermeture définitive de tous les élevages français. Sa présidente Muriel Arnal s'en explique.
Ce sont des sources de souffrance, de pollution aussi pour la nature environnante et de danger pour la santé humaine. On peut s'habiller autrement, on le sait maintenant, donc il faut faire autrement et il faut fermer ces élevages tout de suite. Maintenant, il faut aider les éleveurs, les quatre éleveurs, à ce qu'ils se reconvertissent pour qu'on tourne cette page de l'élevage des animaux pour la fourrure en France.
Alors en revanche, notez que la Fédération La Fourrure Française appelle, elle, à la prudence et aux recommandations vétérinaires. Elle parle d'une instrumentalisation possible des associations animalistes. Chez l'homme, en France, le SARS-CoV-2 ne circule plus aussi vite que le mois dernier. Le nombre de contaminations et le nombre de décès baissent pour le sixième jour consécutif. Cela laisse entrevoir un allègement progressif du confinement en trois phases, a priori. Des changements au 1er décembre qui devraient concerner les commerces. Ensuite, juste avant les vacances de Noël pour les retrouvailles en famille. Et puis en janvier, Emmanuel Macron en annoncera les détails demain soir à 20h. Le télétravail devrait donc rester la norme pour de nombreux salariés pour quelques semaines au moins encore. Nouveau rendez-vous à ce propos cet après-midi entre les partenaires sociaux. Cette réunion sur le télétravail est censée être conclusive, mais la discussion s'annonce encore tendue, Catherine Pétillon.
Même si de part et d'autre on semble vouloir aboutir, les points de blocage restent nombreux. À commencer par le côté contraignant ou non d'un tel texte. Le patronat s'y oppose depuis le début, quand les syndicats de salariés déplorent eux un accord qui n'est ni prescriptif ni normatif, contrairement à ce qu'ils souhaiteraient. Sur le fond, parmi les principaux points de blocage, il y a les questions relatives à la santé. La semaine dernière, les discussions s'étaient tendues autour des accidents du travail. Aujourd'hui, c'est l'employeur qui est responsable quand un salarié a un accident, et cela, quel que soit le lieu d'exercice du travail, et donc aussi en télétravail. Or, le patronat voudrait revenir là-dessus en introduisant dans l'accord une possible révision de la réglementation encadrant les accidents du travail à domicile, et il veut en faire de même pour les obligations de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité de ses salariés en télétravail. Une ligne rouge pour les syndicats qui réclamaient le retrait de ces mesures, ce que contiendra la nouvelle proposition d'accord faite par le MEDEF aujourd'hui sera donc déterminante pour la suite. Les syndicats déplorent aussi l'absence de prise en compte explicite des troubles musculo-squelettiques, du droit à la déconnexion ou des risques psychosociaux liés au télétravail. Il en a été pourtant beaucoup question depuis ce nouveau confinement. Ça devrait occuper une large part des discussions cet après-midi.
La confirmation est tombée ce matin. Danone veut supprimer jusqu'à 2000 postes dans le monde afin de simplifier son organisation et renouer avec la croissance. Cela représentera, selon la direction, 4 à 500 personnes en France, essentiellement des directeurs et des managers. Ce seront peut-être les ultimes discussions au sein des mairies aujourd'hui concernant l'encadrement des loyers. Les communes avaient jusqu'à ce lundi pour se déclarer candidate à cette expérimentation qui doit durer 3 ans. On sait déjà que Bordeaux, Lyon ou Montpellier sont sur les rangs. Paris et Lille ne seront donc bientôt plus les seuls à encadrer leurs loyers. Mais force est de constater que cette expérience montre déjà que les propriétaires ne sont pas très respectueux de la mesure. Environ une annonce sur deux se situe au-delà des loyers de référence à Paris et à Lille. Pour le locataire qui voudrait faire valoir ses droits, c'est très compliqué, nous explique le président de la Confédération nationale du logement, interrogé par Anne-Laure Jumet, Eddy Jacquemart.
Déjà, le locataire qui doit chercher un logement dans une zone tendue, c'est presque le parcours du combattant. C'est j'ai gagné le concours Lépine, j'ai réussi à avoir l'appartement alors qu'il y avait 15 personnes avant moi. On a fait la queue dans les cages d'escalier avec mon dossier sous le bras. J'ai gagné le logement. Évidemment, quand vous signez le bail, le locataire, il discute même pas du loyer parce qu'il sait très bien que s'il discute du loyer, on passe au suivant. Hein, c'est clair, c'est comme ça. Donc, il discute pas le loyer, mais une fois qu'il est dans les lieux et qu'il s'aperçoit que finalement, son propriétaire, il applique pas les bons tarifs, il doit saisir donc la commission départementale de conciliation qui étudie le dossier et ensuite, ça doit passer au tribunal. Il faudrait des moyens de contrôle plus important et des sanctions aussi, parce que la seule sanction qu'a le propriétaire, c'est de devoir baisser le loyer. Si on mettait aussi un système d'amende pour les propriétaires qui ne respectent pas la loi, peut-être qu'on aurait des résultats plus importants.
Une expérimentation française à peaufiner donc encore, mais sachez que la mesure fonctionne déjà bien ailleurs. Elle est entrée en vigueur à Berlin en début d'année et aujourd'hui, une partie des habitants de la capitale allemande vont voir le montant de leur loyer baisser, Ludovic Piétenu.
La loi a d'abord eu comme effet de geler les loyers et donc de calmer et de réguler un marché qui devenait une folie, pour reprendre les termes des associations de locataires. Entre 2011 et 2019, leur niveau avait augmenté de 65% en moyenne. Conséquence, les loyers des nouveaux contrats locatifs cette année ont baissé de 10% et pour les plus anciens locataires, 9 mois après l'entrée en vigueur de la loi, la deuxième étape aujourd'hui oblige les propriétaires à ne pas demander plus que le plafond. Les loyers baissent à Berlin et c'est unique pour une métropole dans le monde, dit Gabriele Gottwald, élu du parti de gauche Die Linke, qui dirige la ville aux côtés des Verts et des sociaux-démocrates. C'est généralement assez mal vécu par les propriétaires, mais si vous regardez les sondages, entre 70 et 80% des Berlinois se disent heureux de cette baisse. 80 euros de moins, plus souvent une baisse de 200 ou 300 euros par mois, ces bonnes nouvelles sont arrivées dans les boîtes à lettres de 340 000 locataires la semaine dernière. Les propriétaires, pour la plupart en colère, devront attendre 2022 avant d'augmenter d'1% par an maximum les loyers.
C'était notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les représentants du G20 ont promis de ne reculer devant aucun effort pour garantir un accès équitable aux vaccins.
Oui, pour les pays riches comme pour les pays pauvres, ont-ils dit dans un communiqué après une réunion par visioconférence hier, un sommet du G20 hier. Alors, il est criant de voir que ce sont quand même les pays dits riches qui prennent de l'avance pour planifier leur vaccination contre le Covid-19. Ainsi, les États-Unis espèrent commencer à vacciner la population à la mi-décembre. Le responsable de la procédure à la Maison-Blanche le disait hier soir, Sébastien Paour.
Il est le conseiller scientifique en chef de la Maison-Blanche pour tout ce qui touche au vaccin et le docteur Moncef Slaoui est très optimiste. Le voici hier sur CNN. Notre plan est de pouvoir expédier les vaccins vers les sites de vaccination dans les 24 heures suivant l'approbation. Donc à J+2, le 11 ou le 12 décembre, j'espère, les premières personnes seront vaccinées partout aux États-Unis. Ce qui voudrait dire que l'Agence américaine du médicament donnerait son feu vert aux vaccins de Pfizer et BioNTech 3 semaines après leur demande d'approbation déposée vendredi dernier. Ce qui voudrait dire aussi que l'efficacité du produit serait confirmée. Le médecin de l'équipe Trump n'en doute pas. Normalement, avec le niveau d'efficacité dont nous disposons, 95%, 70% de la population environ devrait être immunisée vers le mois de mai d'après nos plans. L'administration Trump table sur 20 à 30 millions d'Américains vaccinés par mois à partir de décembre. Le pays enregistre 1 million de cas supplémentaires par semaine depuis l'élection présidentielle.
Sébastien Paour, et 20 jours après cette élection aux États-Unis, le président élu Joe Biden veut lui rester prudent quant au succès de cette vaccination. Il devrait par ailleurs dévoiler ses premiers choix pour le futur gouvernement à partir de demain mardi. Pas de résultat encore au Burkina Faso au lendemain d'une journée d'élection. Des bureaux de vote ont été fermés en cours de journée hier face à des menaces d'attaques djihadistes dans le pays. Entre 300 et 350 000 personnes n'ont pas pu participer à cette présidentielle et aux législatives. Le président sortant brique, rappelons-le, un deuxième mandat face à 12 autres candidats. Une question à présent, que se passe-t-il bien plus au nord, en Algérie, au sommet de l'État? Le président Abdelmadjid Tebboune, âgé de 75 ans, est hospitalisé depuis le 28 octobre dernier, presque un mois, hospitalisé en Allemagne pour soigner son infection au Covid-19. Et cela réveille pour beaucoup d'Algériens le spectre d'une éventuelle vacance du pouvoir, Christian Chesneau.
C'est le syndrome Bouteflika qui semble recommencer en Algérie, un pays dirigé aujourd'hui par un président malade hospitalisé à Cologne. Quel est l'état de santé réel d'Abdelmadjid Tebboune, infecté par le Covid-19? Mystère. Qui est aux commandes de l'Algérie? La presse locale s'interroge. Les communiqués officiels lapidaires se veulent rassurants. La présidence a fait savoir que le Raïs avait terminé son traitement et qu'il effectuait des examens médicaux post-protocole. La chancelière Angela Merkel lui a adressé une lettre dans laquelle elle lui souhaite force et courage dans sa convalescence. Abdelmadjid Tebboune a également reçu le soutien d'Emmanuel Macron qui, dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique, lui a promis de tout faire pour l'aider dans cette période de transition politique. Des propos qui ont immédiatement suscité une levée de boucliers dans les rangs de l'opposition algérienne accusant le président français d'ingérence et de donner quitus au pouvoir algérien honni par la rue. Pour le quotidien La Liberté, Emmanuel Macron a délivré un pur extrait de la pensée néocoloniale.
Christian Chesneau, quelques mots d'une résistante décédée hier en Suisse, ancienne déportée, fervente catholique, militante viscérale contre la peine de mort. Ce sont quelques aspects seulement de la vie de Noëlla Rouget. Toute sa vie, elle se sera battue pour celle des autres, jusqu'à demander et obtenir la grâce présidentielle pour l'homme qu'il avait envoyé dans les camps. Noëlla Rouget avait 100 ans. Le temps ce lundi sera nuageux en France métropolitaine. Quelques gouttes de pluie sur le nord du pays. Un grand soleil au sud. Ce matin, il fait 2 degrés à Strasbourg, 5 à Bordeaux et à Lyon, 9 degrés à Paris et près de la Méditerranée, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 8h15 sur France Culture. Dans 30 minutes environ, mes camarades Hervé Gardet, Géraldine Mostin-Savoie et Arnaud Laporte évoqueront qui la transition, qui le carnet de philosophie. Et Arnaud Laporte, lui, nous dira ce qu'il y a à l'intérieur de l'esprit d'un artiste. Dans quelques instants, nous serons avec la philosophe Elisabeth Badinter. Elle publie « Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants » aux éditions Flammarion. Et puis un billet politique avec vous, Frédéric Saïs. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et de quoi allez-vous nous parler dans quelques instants ?
Comment mener une campagne électorale tout en respectant les gestes barrières ? Ça ne va pas être si simple.